Donc, on va essayer de définir c'est quoi un homme, c'est quoi une femme. Bien sûr, c'est incomplet. Et en tant qu'homme, ça ne veut pas dire que moi, j'ai toutes ces caractéristiques qu'on va avoir d'un homme. Et puis, mais quand même, on va voir en théorie qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui peut définir la masculinité. Encore là, je répète qu'une femme peut avoir a des attributs masculins. Un homme a des attributs féminins, mais on va parler de masculinité et ensuite de féminité. Et on n'est pas tout l'un ou tout l'autre. On est un mélange des deux. Alors, qu'est-ce qu'un homme? Je vais ouvrir ça ici pour pouvoir suivre. Alors, la masculinité se définit, se caractérise par un sentiment de force intérieure qui permet à l'homme de se mettre en mouvement. Voilà quelques notions ici. L'homme est appelé à créer, produire, prendre des initiatives. C'est un aspect davantage masculin. Même si ça sonne traditionnel, l'homme a ce désir aussi de subvenir aux besoins de son entourage. C'est dans l'homme. L'homme, pour se sentir accompli, va avoir ça à cœur. Tellement que dans la génération de mes parents, c'était peut-être la seule chose que les pères ou beaucoup de pères pensaient qu'ils devaient faire. Et les enfants devenus adultes vont dire « J'avais un bon père. Mon père, il travaillait toujours, mais je ne le voyais jamais. » Donc, il y a un problème là. Mais cet aspect, c'est très masculin. La dimension de vouloir foncer, pénétrer, conquérir, c'est une dimension très masculine. L'homme, le masculin, veut surmonter l'adversité. Le masculin est appelé à porter des fardeaux, des responsabilités. Dès la Genèse, on voit, Dieu lui donne la responsabilité morale, touchez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la responsabilité physique, s'occuper du jardin, une responsabilité aussi créative de nommer les animaux. Porter fardeau et responsabilité, c'est un attribut masculin. Moi, je prends cette image, je dis, l'homme a les épaules carrées, la femme a les épaules rondes. Bon, vous avez le droit de penser que je suis vieux jeu en passant. Vous regardez, ah, oh, sur René, il est vraiment d'une autre génération, lui, là, là. Mais voilà ce qui peut définir la masculinité. Aussi, un homme, et ça, tout ça, c'est un idéal, un homme devrait être capable de discipline et de persévérance. C'est donc, idéalement, là, il doit grandir là-dedans. Tout ce que je veux marquer ici peut être des choses qu'on pourrait regarder... les femmes ici, vous regardez les hommes autour de vous, vous dites, ouais, il y en a que masculinité. c'est pas le but. Le but, c'est de dire, on est tous appelés à grandir dans notre identité, hommes et femmes. Leon Payne, qui est un auteur connu de ma génération, en tout cas, il a écrit La crise de la masculinité, entre autres. Il dit, l'essence de la masculinité se réalise, c'est un nom de femme, hein, Leon. Se réalise dans le pouvoir d'entreprendre. Le principe masculin est un principe d'orientation, de direction, d'ordre, de responsabilité. C'est une femme qui a un ministère, elle est décédée maintenant, mais un ministère pendant de très nombreuses années, en particulier à l'égard d'hommes qui souffraient dans leur identité sexuelle et qui étaient dans, et géraient le problème, ou essayaient de gérer leur problème d'homosexualité. Alors, elle a bien connu le masculin. Alors, l'homme devant un problème... préfère se débrouiller tout seul. Il est au volant, il cherche sa route, il est perdu. Sa femme lui dit, on va s'arrêter pour demander. Il dit, non, non, non. Une demi-heure plus tard, il demande parce qu'il est vraiment perdu. Alors, donc, l'homme, pour lui, là, donner un conseil à un homme sans qu'il l'ait demandé, ça équivaut à présumer qu'il ne sait pas quoi faire ou qu'il est incapable de faire par lui-même, ça vient le chercher. Bon, je suis capable. L'homme, et ça c'est des généralités, Hein? Il y en a qui ne sont pas comme ça, mais l'homme, lui, a besoin de se retirer dans sa caverne pour résoudre ses problèmes tout seul, pour se ressourcer, pour retrouver la maîtrise de soi, pour réfléchir. L'homme a besoin d'espace. Oui? Et parce qu'elle a un côté masculin. Et puis, pour l'homme, je pense, donc je suis. L'intellect prédomine. Il a besoin de... Lui, le côté rationnel est généralement plus fort que le côté émotionnel. Alors, il a besoin de raisonner les choses. Donc, il n'y a pas la même sensibilité émotionnelle que la femme. D'ailleurs, la femme, juste son cycle hormonal, fait que des variations dans ses émotions. Ce n'est pas le cas de l'homme. L'homme, son cycle, c'est... Ma femme, c'était là, elle dirait, « C'est-tu plate, un homme? » Le masculin a le goût pour la technique et les choses. Il est orienté vers le faire. Vous avez une soirée des hommes et des femmes dans un coin, les hommes dans un autre coin. De quoi vont parler les hommes? Leur char, leur poêle à bois, le hockey. Les femmes, les enfants, leurs émotions, les relations, leurs amitiés. Il y a vraiment un clivage frappant dans les conversations qui fait que le côté masculin est plus évident. Au niveau compétence, efficacité dans les choses techniques, à l'époque, vous savez, on a encore ça chez nous, un magnétoscope pour les cassettes, là. On a encore ça chez nous. Hein. Fait que dans les statistiques, on disait que quand on testait les hommes et les femmes pour la manipulation d'un appareil comme celui-là, les 68 % des hommes réussissaient à programmer le magnétoscope au premier essai, 16 % des femmes. Donc, il y a des différences. Mais pas toujours pareil, c'est des généralités. Mais chez nous, on a plusieurs manettes, puis à un moment donné, ma femme m'appelle, « Ah, je sais pas comment ça va! » Et la question du pouvoir, l'autorité. Il y a une bonne autorité, une mauvaise façon de vivre l'autorité. Mais pour l'homme, dans un monde idéal, l'autorité devait être considérée comme quelque chose d'utilitaire. Il a besoin, pour pouvoir exercer sa responsabilité, qu'on lui donne l'autorité qui lui revient. Pour faire avancer les choses, il a besoin qu'on lui donne le droit de le faire pour accomplir sa tâche. Donc, l'autorité, ce n'est pas fait pour dominer, mais c'est fait pour prendre ses responsabilités et les exercer. Tout ça, ça nous demande, nous les hommes, en particulier, d'avoir une colonne vertébrale. Père manquant, fils manqué, Guy Corneau a dit dans son livre, manquer de père, c'est manquer de colonne vertébrale. On a vu ça, je pense, dans le camp précédent, par rapport à l'identité, sûrement. Mais c'est sûr, tout ce qu'on vient de dire, ça demande de pouvoir avoir un sentiment de solidité intérieure. Parce qu'il y a un défi pour l'homme de prendre en charge, de prendre ses responsabilités, de veiller, de conquérir, de pouvoir, etc. Et Dieu veut donner à nous les hommes ce sentiment de capacité qui peut se décrire en trois aspects. Avoir un sentiment de force intérieure, dire « je suis capable de faire ça ». Je ne suis pas dépassé par la vie, je ne suis pas dépassé par les événements, mais je peux entrer dans ce mandat-là qui m'est donné. Et ça demande d'exercer une saine autorité plutôt que d'être dominé par les circonstances, de pouvoir dominer ces circonstances-là sans être désemparé, pouvoir prendre des décisions. C'est fatigant de prendre des décisions. Il y a des décisions plus fatigantes que d'autres à prendre. Et aussi capable d'initiative. Larry Crabb, un auteur des États-Unis, a dit « Quand tu ne bouges pas, tu perds la joie de la masculinité. » Un homme a besoin d'être en mouvement et pas passif à la remorque des autres ou des circonstances de la vie. Alors, voilà ce qui définit, en gros, le masculin. Il y a des choses, vous, les femmes, vous avez entendu, là, vous pouvez dire « Bien ça, je me retrouve là-dedans, c'est bien correct. » Certains hommes vont peut-être dire ça, là, j'aimerais me retrouver là-dedans. Parce que je devrais me retrouver là-dedans, mais je vois des failles, des problèmes, des difficultés. Mais Dieu veut agir là-dedans pour que tu grandisses dans ta masculinité. Maintenant, ça, c'est plus problématique ici. C'est quoi une femme? Alors, il y a un livre qui existe qui s'intitule « Tout ce que l'homme sait de la femme ». Et l'auteur, c'est un nom bizarre, mais si vous le lisez comme il faut, quelqu'un peut lire ça à haute voix. Vous le voyez ici? Quasiment rien. Presque rien, quasiment rien. Alors, ce livre-là existe, et si vous l'achetez, vous allez l'ouvrir, il n'y a que des pages blanches. C'est vrai. Alors, il y a cette histoire, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire-là, du type qui vivait en Californie, vraiment un homme de Dieu, et Dieu était tellement content de lui. Il dit, écoute Charles, il n'y a pas de Charles ici. Non. Écoute Charles, je suis vraiment content, fier de toi, tu marches dans mes voies et tout. Donne-moi ce que tu veux, demande-moi ce que tu veux, je vais te l'accorder. Fait que Charles réfléchit, il dit, Dieu, j'aime pas prendre l'avion, mais j'aime beaucoup aller à Hawaï. Est-ce que tu pourrais me faire une autoroute Los Angeles-Hawaï? Dieu dit, écoute Charles, je suis Dieu, je peux le faire, c'est sûr. Mais pensez un peu au niveau écologique, tout ça, les bateaux, tout ça. Ça ne sent pas très bien pour la nature et tout. Demande-moi autre chose. Fait Charles réfléchit un peu et dit, ah, Dieu, j'aimerais avoir la capacité de comprendre la femme, de ressentir ce qu'elle ressent, de pouvoir vraiment prévenir les choses, voir d'avance, anticiper et pouvoir vraiment être en harmonie avec elle. Alors Dieu réfléchit un moment et dit, ton autoroute, tu le veux à deux ou quatre voies? Qu'est-ce que la féminité? Alors voilà certains aspects qui décrivent ce qui est du féminin. La douceur, en passant, encore là, je dis, nous les hommes, je ne veux pas dire qu'on n'a rien de ça. On a des aspects de ça. Mais le féminin se caractérise davantage par ça. La douceur, affection, tendresse. Vous regardez une femme avec un bébé dans ses bras, un homme avec un bébé dans ses bras, c'est pas la même affaire. Pas la même affaire. L'homme, il va prendre le bébé, puis il va le lancer dans les airs. La femme va être comme ça, ah, attention, il y a des différences notables. Dans une piscine, un bébé avec la maman est toute protectrice, le bébé tourné vers elle, l'homme, le bébé, il va le prendre, il va le tourner vers l'extérieur, puis maintenant il va le lancer dans les airs, il va le laisser couler en dessous de l'eau, puis il va le reprendre, le bébé va être... Puis l'homme va le regarder en riant, puis le bébé... C'est différent. La femme, elle est accueille, elle reçoit. Et dans la relation sexuelle, c'est elle qui reçoit aussi. Il y a toute une réflexion qu'on peut faire sur cette différence de l'homme qui pénètre dans la relation sexuelle, la femme qui reçoit dans la relation sexuelle. Est-ce que vous pensez que Dieu a fait ça par hasard? N'est-ce pas extraordinaire que même la biologie, nos organes génitaux, sont révélateurs de ce que c'est que le masculin et ce que c'est que le féminin? L'homme pénètre le monde, pénètre dans la relation sexuelle. La femme accueille et reçoit. Moi, je trouve que c'est extraordinaire ce que Dieu a créé. Il faut qu'on redonne à la sexualité ses lettres de noblesse et la beauté, même exprimée au travers des rapports sexuels. Leon Payne va dire « L'essence de la féminité est réponse. » Elle répond. J'aime bien cette expression. La femme est chaleureuse. Elle a une sensibilité particulière. Elle a une capacité de se donner et s'abandonner. Le sens du sacrifice, du don de soi, de l'abnégation, de la générosité est particulier à la femme. Dans ce sens-là, nous, les hommes, on a tendance peut-être plus égocentrique que la femme. La femme est entreprenante, active. La femme du Proverbe 31 en est un exemple aussi. Elle est capable de spontanéité, capable d'initier des choses. Elle nourrit et soigne. Elle a ce don qui va peut-être se manifester très souvent dans les professions sociales qu'on voit dans notre société, au niveau médical, au niveau travail social. C'est intéressant de regarder le pourcentage des... Les hommes infirmiers sont en minorité par rapport aux femmes infirmières. Et ce n'est pas parce que c'est anormal, non, c'est parce qu'elle découvre là-dedans, elle exprime ce qui l'anime. Elle a ce sens de consoler, de soutenir. Et elle est sentimentale, elle est émotive. On dit que pour la femme, l'émotion devient un prétexte à la relation. Elle veut l'exprimer, partager et recevoir l'émotion des autres en retour. Avec son mari, elle peut être bien embêtée s'il ne lui répond pas au niveau émotionnel quand même. Elle aimerait, mais il n'est pas comme elle. Elle est intuitive. Elle a une intelligence du cœur. Elle va ressentir les choses, percevoir les choses, alors que l'homme est rationnel. La femme peut dire à son mari, « Fais attention à telle situation, il y a quelque chose que je trouve qui n'est pas correct. » Le mari va dire, « Mais voyons donc. Voyons donc. » 2 mois plus tard, le mari dit, « Tu avais raison, il est arrivé ça. » Alors, on compare la femme à un ordinateur, puis l'homme a une vieille machine à calculer avec un rouleau de papier. Elle va arriver au résultat sans savoir pourquoi et comment, tandis que l'homme, lui, va y arriver au résultat beaucoup plus tard, mais il saura comment et pourquoi. Et une chose importante, elle a un sens de la personne, une capacité d'établir des relations aimantes. Pour elle, l'être est plus important que le faire. Elle va... Pour elle, je suis en relation, donc je suis. Dans un livre de psychologie, on dit bien que les hommes et les femmes expriment une estime de soi similaire. Celle des hommes prend ses racines dans une indépendance réussie, celle des femmes dans l'établissement de relations positives. On dit que si une femme est malheureuse, en relation, elle ne peut pas se concentrer sur son travail. Et si un homme est malheureux au travail, il ne peut pas se concentrer sur ses relations. On va garder les questions. Alors, Paul Tournier, que j'ai mentionné tout à l'heure, il va faire mention de ce sens de la personne. Et puis, il va dire ceci. Parce qu'il dit que la femme a davantage ce sens de la personne que l'homme. Il va dire ceci. Bien, il cite une femme, Anaïs Nin, dans un livre qui s'appelle « Être une femme ». Je désire que ce sens de la personne, ce sens du contact direct avec les autres, cesse d'être considéré par la femme comme une faiblesse, mais soit préservé pour elle comme une qualité qui pourrait créer un monde totalement différent, où les facultés intellectuelles se fondraient avec l'intuition et ce sens de la personne. Et Tournier va dire lui-même que notre société en est malade. Il dit, si les femmes arrivent à conquérir pleinement leur place, à exercer autant d'influence que les hommes dans notre société, est-ce qu'elles pourront alors guérir celles-ci de la maladie dont elles souffrent, de cette carence, de cette perte de sens de la personne? Voilà mon espérance, parce que la femme a plus que l'homme le sens de la personne. Alors voilà une contribution particulière que la femme peut amener dans la société, peu importe quel poste elle va remplir. Et puis, une dernière chose sur la femme, c'est son potentiel maternel. Et ce n'est pas juste le fait de mettre au monde un enfant. Il y a des femmes qui ne mettront jamais au monde un enfant, mais ça ne leur enlève pas leur potentiel maternel. Et être maternel, dans les relations en général, c'est justement cette capacité de prendre soin de l'autre, aider, soutenir la vie, nourrir dans plein sens du mot, au niveau affectif, au niveau relationnel, instruire, équiper, former. Voilà ce qui fait partie de ce potentiel maternel de la femme. Donc, j'ai décrit le masculin et le féminin pour voir les richesses qu'on a, hommes d'un côté et femmes de l'autre côté. Et maintenant, comment exercer ça dans notre société? Comment exercer ça dans la famille? Comment exercer ça dans l'Église? Comment exercer ça dans le couple? Voilà, ça devient peut-être pas si évident que ça, mais on va essayer de regarder certains principes. Excusez-moi. Et j'aimerais aborder la question difficile du rôle de chef dont parle la Bible et de la fonction de soumission dont parle la Bible. Et je suis conscient qu'ici, on a un mélange culturel et ça va brasser dans vos pensées des deux côtés de l'Atlantique, si on peut dire comme ça, ou nord-sud. Mais on va essayer de regarder quelle est l'intention de Dieu par rapport à ça, puis essayer de défaire certains faux concepts qu'on a. Alors, Dieu nous a créés différemment pour qu'on ait des fonctions différentes. Et je prétends que s'il n'y a pas de différence dans les fonctions, on va avoir un problème. Comme disait Guy Corneau, un non-chrétien, si les frontières ne sont pas bien délimitées, il y a la guerre. Alors, l'héros de chacun, le chef, ce n'est pas ça. C'est juste pour vous faire peur. Et on veut être rassuré, j'aimerais que vous soyez rassurés par rapport à ce concept-là, parce qu'on a toutes sortes de fausses idées quand on parle du rôle de chef. Et il y a un passage clé dans la Bible, c'est dans 1 Corinthiens 11, verset 3. Là-dedans, il y a beaucoup de sens dont on doit tenir compte. Je veux cependant que vous le sachiez, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Première chose qu'on doit remarquer ici, dans ce texte, c'est que Dieu est soumis à Dieu. Il y a une trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Et la Bible est claire qu'ils ont des fonctions différentes. Mais ils sont égaux. Les trois sont Dieu. Jésus est égal au Père en valeur. Il est Dieu. On ne peut pas remettre ça en question. Tellement qu'aujourd'hui, on oublie le Père, on parle surtout de Jésus, mais il faut qu'il y ait un équilibre. Ça, c'est un autre domaine. Mais il y a des gens qui vont dire, j'ai lu un livre là-dessus, sur le fait, pour établir l'égalité de l'homme et de la femme, on va dire que dans la Trinité, finalement, Jésus était soumis au Père uniquement lorsqu'il était sur la terre. Et c'est absolument faux, bibliquement parlant. Quand Paul a écrit ça, Jésus n'était plus sur la terre. Et vous allez voir dans d'autres textes, dans 1 Corinthiens 15, par exemple, au verset 28, ça dit ceci sur Jésus, « Et lorsque toutes choses lui seront soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. » 1 Corinthiens 15, 28. Ça parle de la soumission de Jésus au Père. Donc, ce n'est pas une chose qui devrait être considérée comme anormale lorsqu'on parle de soumission, puisque dans la Trinité même, il y a cette relation de soumission de Christ à son Père. Un Jésus qui est égal au Père en valeur, mais ils ont des fonctions différentes. Le Père a des tâches que le Fils n'a pas. Première affirmation. Deuxième affirmation, le modèle biblique d'un chef, c'est quelqu'un qui se met à genoux devant Christ. Parce que le verset nous dit ici, que Christ est le chef de tout homme. Est-ce que Christ est le chef de la femme aussi? Bien sûr que oui. Mais dans la relation avec Christ, l'homme a une responsabilité de service différente que la femme. Il a une soumission particulière. Alors moi, je dis, en particulier quand j'enseigne au couple, je dis, le rôle du mari, c'est de se mettre à genoux devant Jésus pour recevoir les instructions de Jésus pour savoir comment servir sa femme. Parce que le modèle d'autorité que Christ a donné, il a lavé les pieds de ses disciples. Il a dit, vous m'appelez maître et seigneur, vous faites bien, faites de même. Alors le travail du mari, c'est de laver les pieds de sa femme. Pas nécessairement littéralement, là. Mais vous comprenez l'image? Donc, l'homme a une responsabilité particulière de se soumettre à Jésus pour recevoir les instructions. Jésus, tu m'as demandé de prendre soin de ma femme, de la nourrir. Que veux-tu que je fasse pour elle? Comment est-ce que je peux la servir? Elle a, espace, servir. Pas elle apostrophe, A-S-S-E-R-V-I-R. La servir. Quatrième chose qu'on doit voir, c'est une vieille image ici, peut-être vous ne connaissez pas ça. La petite maison dans la prairie, je pense que ça s'appelait. Il est un chef responsable. Être un chef, c'est une responsabilité, ce n'est pas un titre honorifique. Pas un titre honorifique. C'est moi le chef. Non. Je suis responsable, Éphésiens 5, 25 et suivant, je suis responsable de prendre soin, de veiller sur elle. On parle ici beaucoup de la relation du couple, mais on peut l'extrapoler aussi à d'autres situations où l'homme doit veiller particulièrement sur la femme. Alors, quand on parle d'autorité de responsabilité, pas autorité de domination. Pas autorité qui va faire de l'autre un esclave, mais faire de l'autre une personne bénie par celui qui prend soin et qui veille. Et finalement, je crois qu'à cause du fait que Jésus est chef, en particulier de l'homme, il devra rendre compte. Quand moi je vais paraître devant le tribunal de Christ, étant donné que je suis marié et responsable de ma chair chrétienne depuis 40 ans, je dois rendre compte à mon chef. Et il va peut-être me rendre des comptes. Parce que dans la Bible, ça dit, Hébreux 13, 17, « Obéissez à vos conducteurs, soyez-leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. » Donc, déjà, par rapport au rôle de chef, il faut qu'on brise cette fausse mentalité de domination, de donner des ordres, d'obliger l'autre à faire des choses que l'autre ne veut pas faire. C'est moi le chef, c'est moi qui mène. Il faut qu'on se débarrasse de ce concept-là. C'est un concept non biblique. Maintenant, à partir de là, on va parler de la soumission. Mais si une femme a un homme soumis à Jésus, serviteur, qui prend soin d'elle, est-ce que vous voudrez lui dire « Arrête donc de me laver les pieds, j'aime pas ça. » J'accueille, je veux recevoir tes services, je veux t'aider à le faire, j'ai besoin de ta force, la force que Dieu te donne aussi, dans ma sensibilité à moi comme femme. Alors, quelle sorte de soumission est-ce qu'on parle? Ça, c'est la fausse soumission. Tu dois obéir, laisse-moi tranquille, je suis libre. Ou tu devrais faire, Dieu m'a dit que tu devais faire cela, alors obéis. Amen, amen. Non. Ça, ce sont des fausses caricatures. Mais pour moi, définir le mot soumission, c'est se mettre sous la mission de l'homme, dans le cas du couple, sous la mission de son mari. Je veux collaborer avec lui. Je veux me mettre sous ses soins, sous ses services. Fait que, avant de vous marier, les femmes, vous voudrez trouver un homme qui a ces caractéristiques-là. C'est une des choses que vous allez vouloir voir. Un homme qui aime Jésus, soumis à Jésus, qui a un cœur de serviteur, qui est capable de prendre soin de vous. Il y a peut-être des femmes qui disent, moi, j'ai pas besoin qu'on prenne soin de moi. Je suis une femme, je suis capable. Moi, je dirais à cette femme-là, mais bon, laisse ta féminité s'exprimer ici parce que tu as été créée avec une sensibilité, une particularité. Et si c'est écrit que l'homme est appelé à prendre soin de toi, c'est parce que Dieu pense que tu as ce besoin-là qu'il a mis en toi, qu'on prenne soin de toi, qu'on veille sur toi. T'es né dans le jardin. L'homme a défriché tout ça pour toi. Laisse-toi aimer, mais pas des murs. Donc, la femme est appelée à collaborer avec lui. Elle reconnaît son mandat. Et puis, le mot autorité. La femme, elle a l'autorité. Une autorité d'influence. Un jour, j'étais dans un cours, c'était en Suisse, à Lausanne, un cours en relation d'aide. Et puis, un orateur dit ceci dans la classe. Il dit, la femme a plus d'autorité que l'homme. Et je vous expliquerai pourquoi dans 24 heures. 24 heures passent, il ne dit rien là-dessus. C'est Tom Hallis, qui enseignait, je me rappelle de lui. Alors, le surlendemain, je dis, Tom, c'est quoi cette idée-là, là? Tu voulais dire, la femme a plus d'autorité que l'homme. Il dit, la femme peut manipuler vers la mort ou encourager vers la vie. Proverbe 14, verset 1. La plus sage des femmes bâtit sa maison, mais celle qui est stupide la renverse de ses propres mains. La femme a du pouvoir par ses paroles, par sa façon d'agir. Elle peut démolir un homme ou l'encourager. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont se sentir fragiles, une certaine insécurité, un sentiment d'incapacité, peut-être à cause de leur passé et tout, puis ils auront besoin d'une femme qui ne va pas le dénigrer puis le rabaisser, mais une femme qui va l'encourager. Je suis avec toi, lâche pas. Tu es capable. On va le faire, on va y arriver. Alors, elle est là pour inspirer et son influence porte une grande autorité. Fait qu'il faut démystifier le mot autorité ici. Vous avez compris tantôt, j'ai dit qu'il y a une autorité de responsabilité puis une autorité d'influence. Hommes et femmes ont une autorité. Et certains vont dire que même l'autorité d'influence est plus puissante que l'autorité de responsabilité. Fait que je pense que la femme n'a pas besoin de s'enorgueillir ici, mais de prendre conscience que, waouh, en tant que femme, j'ai du pouvoir. Un soir, un couple va se coucher, l'homme a une décision à prendre, il en parle avec sa femme, il dort sur sa décision, puis le lendemain, il a la réponse parce que sa femme lui a dit, c'est quoi la réponse? Il va dire, j'ai pris ma décision, mais c'est parce que sa femme l'a influencé dans une direction particulière. Donc, elle reconnaît le mandat de son mari, et puis, elle va collaborer avec lui. C'est un travail d'équipe dans la relation de couple. C'est un travail qui se fait en équipe. On pourrait aller dans les détails, mais les prises de décision, ça se prend à deux. Et là-dedans, il y a une différence entre l'obéissance et la soumission. Ce n'est pas la même chose. Parce que la soumission, c'est une attitude de cœur, mais on peut être soumis et désobéir. Exemple, les disciples, au début, dans les actes, on leur disait ne parlez pas au nom de Jésus. Les disciples n'ont pas obéi. Mais ils étaient soumis. Alors, ils n'ont pas dit aux pharisiens, si tu penses, toi, là que tu vas m'empêcher de prêcher l'Évangile, bien, tu mets un doigt dans l'œil. Je ne veux rien savoir. Non. Ils disaient, on ne peut pas ne pas obéir à Dieu. Mais indirectement, ils disaient, s'il faut qu'on aille en prison, on ira en prison. C'était la soumission. Alors, dans une relation conjugale, par exemple, si le mari demande des choses qui ne sont pas conformes à la vérité, pas conformes à la morale, par exemple, on regarde-tu un vidéo porno ensemble, la femme doit désobéir tout en étant soumise. C'est un exemple parmi d'autres. Et il y a des décisions majeures qui doivent être prises en couple. un déménagement, un achat d'une maison, etc. Une fois, mon père était parti acheter une tranche de steak, puis il est revenu avec un char neuf. C'est comme, tu sais. Et des choses comme ça, non. Il y a une vie d'équipe, vie de couple qui doit se passer. Alors, j'arrive à, là-dedans en termes d'application. Là, je parlais de la relation homme-femme, beaucoup dans un contexte de couple, mais 1 Corinthiens 11 qu'on a cité, ce n'était pas dans le contexte de couple. C'est dans le contexte d'Église. Si vous regardez la suite, parler d'Église. Bon, il y a des choses un petit peu particulières au temps, j'imagine. L'histoire du voile, etc. On n'embarquera pas là-dedans. Mais il parlait de la vie dans l'Église et je pense qu'on peut regarder cette application-là dans l'ensemble de nos relations. Relations en tant que gens mariés, relations dans la vie d'Église, relations dans la société, relations, j'étudie dans l'Église, dans l'ensemble de nos relations, de voir comment est-ce qu'on peut respecter notre différence d'hommes et de femmes, de masculin et de féminin, et grandir chacun dans nos appels respectifs. Alors, une chose qui doit être claire, on doit cesser la compétition et rechercher la complémentarité. Comment ça va se vivre dans les différents domaines de votre vie, dans votre travail, dans votre vie en tant que célibataire maintenant? Mais on a beaucoup de compétition maintenant et beaucoup de comparaison. Et ce n'est pas là, je pense, que Dieu veut qu'on aille. On est créé différent et on doit apprécier plutôt que rabaisser. On doit apprécier la différence entre l'homme et la femme. Et entrer dans la liberté. On n'a pas besoin d'être coupable d'être un homme, d'être coupable d'être une femme. On n'est pas responsable de nos différences. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Il nous a voulu comme ça. Puis c'est une bonne idée. C'est sûr que Dieu, c'est une bonne idée ce qu'il a fait. Le cerveau d'un homme, le cerveau d'une femme, ça ne marche pas pareil. Puis on ne doit pas dénigrer l'autre ou se moquer de l'autre, le blâmer parce qu'il pense différemment ou qu'il agit différemment. On est différent. Une femme a écrit un livre, Barbara Annis, elle a écrit un livre qui s'appelle « On parle la même langue, mais on ne se comprend pas ». On a besoin d'apprécier la différence puis être libre de la culpabilité. On doit aussi être libre de la pression au changement. Essayons pas de changer l'autre. On doit plutôt apprécier d'être soi-même. Yvon Dallaire va dire ceci. Il se peut que vous trouviez certaines caractéristiques de l'autre sexe quelque peu répréhensibles. Mais celles-ci sont généralement positives pour le sexe en question. Par exemple, les femmes peuvent déplorer l'esprit de compétition de l'homme. Mais c'est cette compétition qui amène les hommes à se surpasser et à atteindre les plus hauts sommets, que ce soit l'Everest, les sports extrêmes, le fait d'être premier ministre ou d'aller bientôt sur Mars. Je ne sais pas s'il y a des volontaires pour aller sur Mars, mais c'est une drôle d'idée en tout cas. C'est beau être un masculin, là, mais là, il y a un bout à tout, là. C'est un voyage aller simple. Puis les hommes peuvent trouver agaçant les mémérages des femmes, mais c'est comme cela qu'elles tissent des liens, qu'elles comprennent leurs semblables et vous par la même occasion, qu'elles deviennent psychologues et apprennent à prendre soin des autres. Donc, il faut qu'on puisse être libre d'être soi-même et d'explorer notre particularité d'homme et de femme. Et donc, libre de s'épanouir dans sa destinée propre. Et à cet égard-là, ça veut dire quoi? Chacun va le savoir avec Dieu. Mais pas besoin d'entrer en compétition, pas besoin de se comparer pour prouver sa valeur. On est d'égale valeur. Mais de dire comment moi, en tant qu'homme ou moi, en tant que femme, je peux vraiment entrer dans ma destinée qui m'est propre à moi sans être en compétition, cesser de prouver quoi que ce soit, mais juste d'aller selon l'appel que je sens que Dieu a mis dans ma vie. Donc, on parle en fin de semaine de mode d'emploi. Alors, ça, c'est notre livre de mode d'emploi. C'est pas si simple que ça, là. C'est pas comme écrit, là, puis on va faire telle chose. Mais c'est plutôt une mentalité. Une mentalité qui part de l'appréciation, dès la Genèse, de l'idée de Dieu. À partir de l'image de Dieu qui est masculin et féminin, qui est les deux. Et puis qui apprécie la femme autant que l'homme et qui reconnaît l'égalité de valeur de la femme et qu'on n'a même pas besoin de se battre pour ça. Et dans le respect mutuel, de pouvoir entrer dans notre appel chacun. Ce que je viens de vous dire, c'est presque aussi une certaine préparation au mariage. Parce que beaucoup de couples ne comprennent pas la richesse de ce passage qui dit que l'homme est le chef de la femme, dans le sens de prendre soin, etc. Et beaucoup d'hommes ne prennent pas leurs responsabilités, et beaucoup de femmes en souffrent aussi. Et beaucoup de femmes ne savent pas qu'est-ce que c'est, ne réalisent pas l'autorité qu'elles ont, leur autorité d'influence. Beaucoup de faux concepts sur l'autorité. Et peut-être à cause de certaines souffrances passées aussi, où il y a eu des modèles, des exemples de domination, de blessures, d'abus d'hommes dominateurs, qui fait qu'à un moment donné, on ne veut plus rien savoir de ces notions-là, mais il faut les ressusciter à la lumière de ce que la Bible nous dit. Et Paul, ce n'était pas un misogyne. Plusieurs pensent, même les chrétiens pensent que Paul était un misogyne, il y a des problèmes avec les femmes. Mais quand on voit que la source est dans la Trinité même, la relation trinitaire. Et l'exemple de Jésus qui est serviteur, qui est Seigneur, roi et maître, et serviteur. Alors, il faut qu'on ressuscite ces notions-là. Dans mon livre, en page 86, mon livre « Homme-femme, égo, mais différent », voilà ce que j'ai écrit. Et je vous soumets cet aspect-là. J'appelle ça ma thèse ou encore une hypothèse. Avec tout ce qu'on a dit, avec ce que Guy Corneau disait au début par rapport aux frontières bien établies, etc. Voilà la réflexion que je me suis faite en cours de route en écrivant ce livre. Si dans une structure sociale quelconque, soit le couple, la famille, l'Église, une organisation, aucune distinction n'est faite quant aux fonctions accordées à l'un ou l'autre, par une sorte de nivellement des sexes, force nous est de conclure qu'il y a de fortes probabilités que, ce faisant, nous ne respections pas le plan original de Dieu qui a créé l'homme et la femme avec une destinée à la fois commune et différente. Et ne pas respecter ce plan, c'est aller au-devant de difficultés qui vont nuire à l'harmonie recherchée. Je ne sais pas si c'est trop, si ça se lit bien ou ça se comprend bien, mais à partir de cette notion qu'on est égaux, qu'on est différent, on veut voir l'incarnation de ça dans nos vies, nos vies personnelles, nos vies de couple, notre vie d'église et notre vie sociale. Comment concrètement ça peut se matérialiser? Il n'y a pas, dans notre manuel d'emploi, il n'y a pas de choses noires sur blanc. C'est une question de sensibilité à ces valeurs qui, pour moi, sont des valeurs bibliques. Et puis, à nous ensuite de voir comment on peut incarner ça, chacun dans notre destinée d'homme et de femme. Il nous reste quelques minutes pour des questions. Oui. Féminité, femme, femelle? Bon, c'est sûr que mâle, femelle, c'est un terme plutôt animal, mais donc, la femme est, oui, femelle, ça c'est l'aspect corps physique ou nature aussi du féminin. Donc, le premier c'était, t'as dit quoi le premier? Féminité, femme. Bien, je pense que la femme, elle a fondamentalement dans sa vie, elle a des caractéristiques féminines qui, généralement, sont plus présentes que caractéristiques masculines. Donc, généralement, pas toujours le cas, mais généralement. Ouais. Ben, je pense que c'est à elle de découvrir avec Dieu là où elle peut exprimer sa personne entière sans comment je dirais, faire abstraction du fait qu'elle est quand même née dans un corps de femme avec une réalité biologique et vivre selon sa réalité aussi sans nier cette dimension féminine, mais si, par exemple, en tant que femme, elle se sent appelée à être, par exemple, je pense, un métier pardon? Pompier, tu dirais, toi? Première ministre, c'est peut-être un meilleur exemple parce qu'il y a des tâches comme pompier, ambulancier ou soldat sur le front qui demandent des forces physiques que même si tu as des attributs masculins, tu as un corps qui est féminin avec des limites. Et moi, si j'étais brancardier, ambulancier avec une femme, mais là, pas à mon âge, là, parce que je n'ai pas la même force que j'avais quand j'étais plus jeune, mais si je devais porter deux fois plus de poids que l'autre, je trouverais ça un peu difficile. Il y a des tâches comme ça, je dirais que la femme, il faut qu'elle y pense à deux fois, là. Il y a une réalité physique. Mais premier ministre, ça, c'est une sacrée bonne question. Parce que quand je regarde ce qui se passe dans la société, d'une part, je ne déplore pas le fait que la majorité des premiers ministres soient masculins. Je trouve pas ça, c'est inégal et inacceptable qu'il devrait y avoir autant de femmes premiers ministres que d'hommes premiers ministres. Je trouve que c'est une fausse recherche de la parité. Il y a des femmes qui sont exceptionnelles au niveau de capacité de porter des charges de responsabilité, comme on pense à Angela Merkel, comme ça, en Allemagne, par exemple, ou Madame Thatcher à l'époque. Dame de fer, hein? Ouais. Oui. Pourquoi Dieu a permis ça? C'est pas une erreur de Dieu. Dieu n'a pas fait une erreur en te créant comme ça. T'es pas une erreur. Oui. Moi, je dirais que ça peut être un appel authentique sur ta vie, mais moi, en tant qu'homme, je dirais, Michaela, que je serais quand même concerné pour ton bien-être, parce que pour moi, même si tu ressens cette masculinité, tu demeures une femme quand même qui a besoin de protection. Alors, est-ce que c'est possible d'être première ministre, mais d'être entourée, entre autres, d'hommes solides avec qui tu pourras faire équipe, sur qui tu pourras t'appuyer. On a un mode d'emploi, mais il n'y a pas des règles. Il n'y a pas des. C'est ça. Je pense, dans notre réflexion en tant que chrétien, il faut qu'on ait une ouverture d'esprit pour laisser place à l'exception, tout en restant prudent. C'est un peu comme ça que je répondrais à ça. Rester prudent par rapport à ça. Si un jour tu te présentes comme première ministre, je vais peut-être voter pour toi, Michaela. Mais je dirais, mais entoure-toi de gens solides autour de toi, des hommes en particulier, parce qu'à des moments donnés, parce que tu demeures une femme dans un corps de femme, tu as un cycle menstruel, hein, tu as des émotions qui vont varier. Je ne veux pas entrer dans ton intimité, là. Peut-être que tu dis, je n'ai pas d'émotions, moi. Hein? Même dans ton cycle, tu dirais, je suis vraiment stable, même à mon niveau de mon cycle. Ouais. T'as pas de fluctuation, Vincent, pour nous dire. Il n'y a pas des moments où. Oh, 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 o Bon. Écoute, Michaela, c'est toi qui as commencé, hein, moi. Mais au niveau, c'est ça, il saute d'humeur, c'est, en tout cas, c'est à voir. Mais on ne va pas poursuivre sur ce terrain privé. Oui, alors. Dans l'exemple de tous les jours, un exemple d'une femme qui est soumise à son mari. Ben, si on parle de soumission comme étant « j'appuie mon mari », donc je l'encourage, je partage avec lui les décisions dans les situations où je n'ai pas un avis ou on a un avis contraire les deux, mais c'est des décisions mineures, ben, j'accepte qu'il décide. Puis moi, je dis à l'homme, tu décides de ne pas décider tant que vous n'êtes pas d'accord, par exemple, ou tu décides ce qu'elle veut, elle. Donc, il y a une souplesse là aussi dans la prise de décision. Avec Christiane, si elle était là, ça serait le fun qu'elle dise comment elle voit sa soumission. Mais on fait tellement équipe les deux. Oui, comme récemment, par exemple, je prends quelque chose de très, très précis, très personnel récemment, c'est un choix d'église. On a navigué longtemps pour implanter une église maison. On a cheminé là-dedans après plusieurs années. Maintenant, on est à la recherche. Et alors, elle est un peu en attente que j'aille dans son sens, si je peux dire. Puis moi, j'ai lutté avec ça. Puis finalement, j'ai dit, ben il faut que quand même je prenne soin de ma femme. Alors, je vais aller dans le sens de ma femme. Donc, elle a respecté mon inconfort, mon besoin de réfléchir, etc. Et donc, dans ce sens-là, elle était soumise à la démarche, reconnaissant que elle ne voulait pas faire d'erreur non plus, puis elle voulait qu'on soit ensemble là-dedans. Ça, c'est un exemple très concret. Il y avait d'autres questions. On va vite aller parce que le temps passe. Oui? Oui. Donc, tu parles à l'intérieur de la vie de couple ou en général dans les relations? Oui. Et pour toi, quand tu dis exprimer ta féminité, ça signifie quoi en tant que célibataire? Oui. Bien, je pense que un des rôles de la femme, c'est de pouvoir demeurer jolie, féminine, demeurer elle-même, tout en étant modeste dans sa façon de s'habiller. Parce que la femme peut être provocatrice aussi. Je ne veux pas dire à cause de ça que c'est la faute de la femme, mais il faut que la femme voie sa responsabilité aussi de ne pas provoquer l'homme. Il y a une femme qui disait qu'elle était enceinte, elle était contente d'avoir plus de poitrine, comme ça, elle était contente de montrer plus sa poitrine, elle était fière d'être femme. Puis moi, j'aurais dû lui répondre à l'époque, mais tu aimes ça être convoitée par les hommes? Probablement que ce n'est pas ça qu'elle pensait. Elle pensait juste une fierté d'avoir plus de seins à ce moment-là que dans le reste de sa vie. Donc, il y a un élément de modestie sans être avec une burqa. Tu comprends? De trouver, ouais, c'est un bon exemple quand même, de trouver l'équilibre, puis sans t'habiller comme un homme non plus, etc. Donc, c'est sûr que quand, si tu as déjà été offensé par des propos déplacés, ça peut t'amener à te renfermer, mais il ne faut pas non plus. Là. Je pense qu'il faut que tu continues d'être qui tu es dans un sentiment devant Dieu. Je m'habille correctement, je suis modeste, je ne suis pas provocatrice et demander avec l'aide de Dieu de pouvoir poursuivre ta marche. Oui. 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 Tout à fait. Oui. Ouais. Ouais. Tout à fait. Tout à fait d'accord. Merci d'ajouter ça. Il y a une question d'équilibre ici, dans les deux, des deux côtés. Parce que peu importe même comment la femme va être habillée, l'homme peut la déshabiller du regard, hein, aussi. Sûr. Oui, c'est ça. Donc, une question d'éducation, tout à fait. Oui. Oui, ton espace, tu as besoin de ton espace, ta caverne à toi aussi. Oui. Je pense que c'est une question de dialogue. Si les hommes accaparent la salle de bain de manière injuste, qu'il aille dans son atelier ou dans le garage ou dans la forêt, il y a d'autres places aussi, là, parce que c'est un endroit public utile pour tout le monde. Hein? Donc, oui, alors Joël me fait signe, le temps passe. Il est midi 5, mais on est dans une période de questions après-midi. Hein, Joël, à toi la parole. On va terminer un mot de prière. Je peux prier pour le repas en même temps. Ou quelqu'un allait le faire? C'est bon? Ta parole nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et la vérité, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Seigneur, on ne veut pas être esclave de la pensée du monde, ni esclave de l'égalisme, ou d'étroitesse, mais on veut entrer dans la pleine liberté selon ton plan pour chacun d'entre nous. On veut honorer ta création, honorer l'homme, honorer la femme, apprécier la différence. Et je prie que par ton esprit, tu nous aides chacun d'entre nous à entrer dans notre destinée pleinement, que ce soit premier ministre ou épouse à la maison ou infirmière. Ou peu importe, Seigneur. Alors merci de nous accompagner dans la mise en pratique et qu'on soit des hommes, des femmes de ta parole, qui sont guidés par ton esprit, Seigneur, sans se conformer au monde présent, mais en se conformant à toi et à ta pensée, ta volonté, pour connaître ce qui est bon, agréable et parfait. Merci Dieu de le faire. On a besoin de toi pour ça et bénis cette nourriture à nos corps. Merci pour ceux qui l'ont préparée. Bénis-les aussi, on te prie. Amen.